France Culture.
Bonjour Simon Abkarian.
Bonjour.
C'est le troisième temps de Nos Abonnés qui en compte cinq épisodes, je le rappelle. Et pour ce troisième temps, je voudrais vous proposer de parler de votre métier d'acteur et de comédien. Pour le quatrième temps, nous parlerons de votre écriture. Et pour le cinquième, de l'art, de la scène. Mais déjà, votre métier d'acteur et de comédien, vous avez commencé à nous en parler dans l'épisode précédent. Qu'est-ce que c'est d'être sur scène? Qu'est-ce que c'est que jouer? Vous avez la réputation d'être un acteur à la présence magnétique, au verbe haut. Peut-être que c'est quelque chose que vous portez dans la vie, que vous êtes dans la vie. Et vous disiez qu'au Théâtre du Soleil, en tout cas, même au théâtre en général, c'était comme si vous étiez chez vous. À la maison, que quitter le Théâtre du Soleil, c'était un exil, qu'il a fallu réapprendre à être chez vous. Est-ce que un plateau de cinéma, c'est aussi chez vous, autant que la scène, une scène de théâtre ?
C'est un autre chez moi. Je ne m'y sens pas autant en sécurité que dans un théâtre.
En sécurité ?
En sécurité, dans le sens où je sens qu'il ne peut rien m'arriver de mal sur un plateau de théâtre. Mais au cinéma non plus d'ailleurs. Mais c'est une autre manière de... Le dénominateur commun, le point commun de ça, c'est jouer, c'est le jeu. C'est, voilà. Mais c'est une autre manière. Au début, je comprenais rien, quoi. Je ne savais pas ce que c'était qu'un micro HF. Je jouais large, je jouais grand. J'arrivais pas à comprendre la valeur des cadres. Après, j'ai vite appris. Mais... Et c'est pareil, si vous voulez, il y a aussi une communauté qui se forme. Ça dépend de combien de jours vous tournez sur un projet. Mais si vous y êtes longtemps, voilà. Alors là, il faut aller vite parce qu'il faut vite apprendre des prénoms des gens, de tout le monde, et vite apprendre qui est qui, quoi. Pas seulement au niveau de leur poste, mais aussi au niveau de leur humanité, à l'endroit de leur humanité. Moi, je trouve ça super émouvant de voir, par exemple, des perches qui se tendent, une caméra, des gens qui se tendent vers un point qui s'appelle l'endroit du jeu. Dans le cadre, ou surtout quand c'est en mouvement, comme ça, où il y a tout le monde qui marche en même temps avec la caméra. Moi, je trouve ça super beau, quoi. C'est comme un ballet qui est magnifique. Mais le point commun reste le jeu.
Vous disiez que ça dépend aussi de combien de temps dure le tournage. Il se trouve que vous avez pourtant commencé par un court-métrage, donc je suppose que le temps de tournage était plutôt court.
Ouais, mais vous c'était avec Cédric.
Voilà, vous avez commencé avec Cédric Lapiche. Le film s'appelait Ce qui me meut,
ouais.
Et c'était en 1989. Comment vous êtes-vous retrouvé sur ce court-métrage ?
Bah Cédric, au début, il faisait des espèces de stages rencontres entre des acteurs de théâtre, justement, et pas que, et aussi lui qui filmait, qui nous dirigeait. Il était jeune, hein. Et des textes. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Cédric, c'est pareil, parce que, mais, quand je dis mais, c'était Cédric, parce que Cédric, il a aussi cette force-là, cette capacité-là de réunir tout en douceur un groupe, quoi. Il y a une famille Clapiche, qu'on le veuille ou non. Il y a, voilà, moi je continue à être ami avec Cédric, je le vois de temps en temps.
Vous avez tourné dans plusieurs de ses films après. Il y a eu Rien du tout en 1992, Chacun cherche son chat, j'ai répété, en 1996, Ni pour ni contre en 2003, ouais. Deux mois en 2019. Donc ouais. C'est un long compagnonnage maintenant.
Oui, j'espère qu'on va retravailler ensemble. Mais si vous voulez, mes amis, je ne vais jamais voir mon ami de dire alors tu me fais tourner ou pas. Si les choses se font ou ne se font pas. Mais entre le se font ou se font pas, entre les non-tournages, il y a de l'amitié qui continue à évoluer, quoi. Après, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Je ne suis pas ami avec tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé.
Et d'ailleurs, j'ai pas noté tout le monde. Je n'ai noté que ceux et celles avec qui vous aviez tourné plusieurs fois, disons, ou parfois vous aviez incarné des personnages un peu similaires pour que les choses se dessinent. Donc évidemment, Cédric Clapiche parce que c'est le premier et parce qu'il y en a eu beaucoup et que c'est devenu un ami.
Oui.
C'est quoi la famille Clapiche ou l'esprit Clapiche? Puisque vous en faites partie.
Il y a une nonchalance dans la pensée, quoi. Il y a une espèce de légèreté dans la pensée ou dans ses propos qui parlent de l'humain, quoi. Et c'est jamais attention, c'est grave. On va parler des rapports hommes-femmes. On va parler de.
C'est l'inverse de vous, quoi.
pas quand je travaille. Non, moi, je suis beaucoup plus dramatique, on va dire. Mais c'est sa nature aussi qui est comme ça, Cédric. C'est quelqu'un. Derrière sa bonhomie se cache aussi une exigence de faire, quoi. C'est quelqu'un qui... Mais en même temps, ça reste ouvert. Ça va pas être aux dépens de l'acteur ou ça va pas être aux dépens de l'image. Voilà, ce sera jamais aux dépens de quelqu'un sur un plateau de Cédric.
Avec Cédric, ça n'arrive pas. Est-ce que ça arrive avec Robert Guédiguian, avec qui vous avez beaucoup tourné?
Jamais. C'est pareil, ça n'arrive jamais. C'est quelqu'un, pareil, qui dans sa grande, voilà, dans sa grande vision du monde et de l'humain, il arrive à faire que le tournage se passe d'une manière très suave.
Alors avec Robert Guédiguian, il faut peut-être qu'on aborde la question des rôles et des sujets des films que vous avez tournés, Simon Abkarian, parce que Le Voyage en Arménie, L'Armée du Crime, Une Histoire de Fou, L'Armée du Crime, c'est Missak Manouchian, L'Affiche Rouge, mais origine arménienne aussi, donc ce sont trois films qui parlent de l'Arménie. Ça n'a pas été les seuls. Hein. Vous avez aussi tourné avec Atom Egoyan, Ararat. Mmh. Vous avez tourné avec Robert Kechichian, Aram. Mmh. Donc l'Arménie, elle est présente. On dit dans l'épisode précédent qu'il y avait eu aussi cette pièce de théâtre pour laquelle vous avez reçu le Molière. Mmh. Il y a eu d'autres films comme ça, Shlomi et Roni Telkabetz, dans la trilogie Prendre femme, ou même dans Le procès de Viviane Amselem. Ce sont des films qu'on pourrait catégoriser comme historiques ou politiques.
Oui, bien sûr.
Et donc, est-ce que dans vos choix d'acteurs, là, c'est pas forcément se préparer à un rôle, c'est se préparer à un film. Est-ce que dans vos choix d'acteurs, la dimension politique, elle entre en ligne de compte? Elle est importante. C'est important pour vous parce que ça va faire œuvre de passeur, de transmission.
Moi, je crois que tout est politique, même quand on décide de faire un film qui ne se veut pas politique, est un acte politique. Tout est politique. Mais c'est vrai que j'ai besoin que ça parle du monde, quoi. J'ai besoin que ça parle des humains, j'en ai besoin. Et c'est pas moi qui vais les chercher. Parfois, bon, Ronit, elle est venue me voir avec Shlomi, ils sont venus me voir, ils m'ont proposé ce rôle. Et c'était incroyable, parce que, indépendamment du fait qu'il fallait apprendre l'hébreu, etc., etc., je suis rentré dans une histoire que je connaissais pas, mais la souffrance, je l'ai reconnue. Quand j'étais en Israël, ça crie, quoi. Et Ronit me disait, t'as vu, hein, on crie beaucoup ici en Israël. Je dis, rassure-toi, chez moi, c'est pareil. Parce qu'au Liban, et c'est dans le dernier jour du jeûne, parfois, les gens étaient, quand on jouait cette pièce, ils disaient, mais c'est un peu brutal, comme ça. Moi, je dis, non, c'est pas brutal, c'est ardent. Et puis, c'est peut-être, on n'aura plus l'occasion de le dire parce que peut-être qu'on sera mort. Il y a ça aussi, il y a l'idée de la disparition qui est inhérente, qu'on le veuille ou non, en Israël. Malgré tout le fait, ce qui se passe, je n'enlèverai pas cette inquiétude-là que peuvent avoir certains peuples, quoi. Et ça, je le comprends en tant qu'Arménien, et je le comprends en tant que Français, par son histoire et par sa littérature, forcément, par ses poétesses et par ses poètes. Donc c'est vrai que ça converge souvent vers ça. Après, moi, j'aime bien faire des films d'action aussi. J'aimerais bien faire un film de KPDP. Mais pas faire un film de KPDP pour faire un film de KPDP. Il faut que ça raconte un truc quand même.
Vous avez joué dans Casino Royale.
Je l'ai fait, ouais. Mais ça, c'était le mythe. Il fallait que j'y aille. J'ai pas réfléchi.
À James Bond.
Ouais, j'ai pas pensé non une seconde, quoi. J'y suis allé parce que c'est un mythe.
Et alors, après ?
Magnifique. 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 Grosse machine. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et voilà, c'est comme être dans un film de Zorro, quoi.
Ça, c'est fait. Je vous posais la question de la dimension politique ou historique, ou même peut-être pédagogique à certains moments, des choix de films que vous avez fait dans votre carrière. Souvent, je vous ai entendu parler de la responsabilité de l'acteur. Est-ce que c'est aussi de cela qu'il s'agit ? Vous avez joué donc Missak Manouchian, mais vous avez aussi joué Mehdi Bambarka.
Oui.
L'opposant marocain, dans un film de Serge Le Perron. Vous vous êtes même glissé dans la peau du général Oufkir, qui avait été le bourreau de Ben Barka, dans l'affaire Ben Barka, téléfilm de Jean-Pierre Sinapi. Vous êtes capable de jouer beaucoup de choses, on va continuer sur cette idée-là. Mais la dimension politique et la responsabilité de l'acteur, pour vous, est-ce que ça a un sens?
On peut dire, bon, on est juste des acteurs. On peut dire ça. On est juste des acteurs. Mais pour moi, je suis responsable de représenter la personne qu'un poète, un auteur, une autrice a écrite. Et c'est ma responsabilité de le défendre. C'est pour ça, de le défendre bec et ongle. C'est pour ça que je crois que je jouerai jamais le rôle d'un pédophile. Parce que je saurais pas comment le défendre.
Mais général Oufkir, oui.
Oui, parce que ça fait partie d'une histoire shakespearienne. C'est des histoires de soif de pouvoir, de trahison, et ça me... Parce que ça affecte encore maintenant les générations qui ont suivi ces épisodes-là. Donc voilà, on doit être un petit peu quand même les vigies aussi de dire ça. Et surtout, je parle des auteurs et des autrices, de dire, de raconter, de reprendre l'amont de l'histoire, l'origine de l'histoire, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et aussi d'être les vigies de ce que nous sommes capables de voir et que les gens parfois refusent de voir. C'est une bénédiction qui peut être aussi une malédiction. De dire attention, il y a un nuage noir qui arrive, il est très noir. Faites attention, mais non, tout va bien, ça ne pourra pas arriver de nouveau, etc., etc. Donc ça arrive, il faut qu'on fasse très très attention à ça. Après, je ne sais pas si je peux sauver le monde, mais je peux le dire, je peux le raconter. Donc, c'est important pour moi. Oui, je suis responsable de ça. Ne serait-ce que vis-à-vis de l'auteur ou de l'autrice.
Ça veut dire que vous vous donnez des limites morales. Il y a des rôles que vous ne pourriez pas jouer.
Ouais.
Ça ne vous a pas empêché de jouer Tony le Dingue dans la série Les Beaux Mecs, inspiré de l'histoire du grand banditisme. Ouais. De jouer un colonel narcotrafiquant dans la série Kabul Kitchen. Vous avez beaucoup aimé ça, ce colonel. Ouais. Vous aimez bien les généraux. Ouais. Un patron de boîte louche dans Pigalle la nuit. Ouais. Bien sûr, un jeune résistant communiste dans l'armée du crime, ça on l'a dit. Un grec méchant. Dans James Bond, c'était un peu un grec méchant. Et puis un époux israélien orthodoxe dans Prendre femme. On voit la diversité, l'éclectisme de vos choix. Mais il y a des limites.
Il faut qu'il y ait des limites. Parce que, si vous voulez, je ne peux pas dévoyer mon travail en le jetant en pâture, en faisant de la merde. Et si je ne reconnais pas que la merde en est une, alors il faut que je change de travail, il faut que j'aille ailleurs. Parce que quand vous parlez de carrière, c'est ma vie. Ce n'est pas seulement une carrière, c'est aussi ma vie. Moi, dans ma vie, je fais attention à ce que je mange, à ce que je bois, à qui je fréquente, les films que je vais voir, les choses que j'évite d'écouter, que j'évite de manger. Voilà. Parce qu'il faut que je me préserve et la toxicité, elle va vite, la contamination va vite. Voilà, il y a des gens qui disent « Ouais, mais tu comprends les musulmans, tu comprends les juifs, tout ça, machin, je dis stop. » Parce que non, mais je voulais pas dire un mal. Si, ça commence comme ça et ça finit, on sait où. Donc j'ai des douaniers qui montent la garde devant chacune de mes oreilles et qui fouillent chaque mot qui vont sortir de ma bouche. Une fois, j'avais été dans une radio que je nommerai pas, il y a des années de ça, c'était pour Une bête sur la lune, et ça a commencé off micro. Je me disais, bon, on parle beaucoup du génocide, de la Shoah, des juifs, mais jamais je dis stop, comment se passe-t-il, c'est mal parti, moi je m'en vais. Si ça commence comme ça, je m'en vais. On peut pas dire des choses pareilles, c'est pas possible. D'opposer les souffrances, de dire ça, on l'a assez dit, non, on l'a pas assez dit, on va le redire encore. S'il faut faire 6 millions de films sur la Shoah, il faut faire 6 millions de films sur la Shoah.
Mais c'est intéressant parce que la façon dont vous...
Et ça peut me mettre très en colère ce genre de propos,
ben oui,
parce que...
On sait que vous pouvez être véhément d'ailleurs. Ça fait partie du tempérament méditerranéen.
Ouais.
Non mais c'est intéressant ce que vous dites sur les limites et le fait que vous ne pouvez pas jouer un personnage que vous ne pouvez pas défendre. Parce que c'est presque comme si vous considériez que le métier d'acteur, c'est le métier d'un avocat. Il faut aussi pouvoir défendre la personne que vous représentez.
Et l'inverse est vrai aussi. Le métier d'avocat, c'est aussi un métier d'acteur. Je pense qu'il y a beaucoup d'avocats qui s'inspirent de notre travail et vice-versa. Parce qu'il y a le moteur premier, c'est la parole. La parole, quand elle disparaît, et c'est ça qui se passe en ce moment dans notre monde politique, c'est que la parole, elle s'est tellement étiolée qu'elle n'est plus porteuse d'aucune pensée, c'est que des avis. Et que des contre-avis. Et qu'il n'y a pas de bienveillance, même entre les gens qui sont dans des camps opposés. Il n'y a plus cette élégance que procure la grande parole, la belle parole, qui est porteuse d'une grande vision, d'une grande pensée. Là, on n'en est plus là, quoi. C'est devenu simple et binaire, sujet, complément d'objet direct, et je t'emmerde. Non, c'est autre chose. Nous, on a besoin, nous, quand je parle nous, des gens du peuple, on a besoin que les dirigeants nous tirent vers le haut par leurs propos, par leur vision, par leur pensée, pas par leurs soucis électoraux. Le souci électoral, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour la communauté humaine, quoi, pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour que nous puissions vivre plus en harmonie? Et si la parole fait défaut, ça veut dire que la pensée n'est plus là. Ça veut dire qu'à l'origine, il n'y avait plus de pensée. Et c'est vrai que le théâtre et le cinéma, quelque part, parce que c'est une industrie, le cinéma, qui est assujettie à des règles et à des lois économiques, mais le théâtre échappe encore à ça. Et c'est encore l'un des rares endroits où on peut développer la grande parole, la grande véhémence, la grande pensée. Les grands monologues, les gens, ils te disent « Ouais, mais c'est bavard, si je parle pas, je fais quoi ?»
Ben, vous dansez.
Oui, aussi.
Simon Abkarian, le dernier personnage en date que vous avez incarné, c'est De Gaulle. dans un film d'Antonin Baudry en deux volets. Alors, jouer De Gaulle, que vous admirez depuis toujours. D'ailleurs, on vous surnommait aussi De Gaulle quand vous étiez enfant.
À l'école. À Beyrouth, ouais.
À Beyrouth. Ouais. Et puis, au-dessus de votre tête, là, de votre canapé, il y a deux portraits de De Gaulle. Et puis, il y a même un képi, une casquette.
Ça, c'est le képi que j'ai gardé du film. Et cette image de De Gaulle, en fait, ma femme, elle est lorraine. Elle a trouvé la photo de mariage de ses grands-parents. Et entre la photo et le dos de la photo, le cadre s'est cassé. Il y avait la photo de De Gaulle. Du coup,
vous l'avez récupéré.
Ouais.
Qu'est-ce que vous admirez autant chez le général De Gaulle ?
Son courage. Son courage et sa folie, quoi. Sa dinguerie. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut dire, ouais, c'est un mec de droite, tout ça, machin. Moi, je m'en fous à la rigueur. Moi, ce que je veux voir, c'est des hommes et des femmes qui se dressent absolument sans aucune arrière-pensée, sinon celle de sauver ce qu'il y a à sauver, quoi. La maison des hommes. C'est ça qui m'intéresse chez lui. C'est ça qui est brillant chez lui. Parce que on peut pas jouer De Gaulle autrement que de passer par sa pensée, par sa parole. Encore une fois, on revient au langage. Et Dieu sait s'il en avait une. Ses discours, ils sont extraordinaires. J'en ai quelques-uns dans le film. C'est d'une hauteur sans nom, quoi. Et d'une intelligence et d'une... Oui, enfin, d'une bonté, quoi. L'amour de la langue, déjà, et puis... Parce que c'est elle qui nous constitue. C'est pas... Bien sûr, les fromages, le vin, nos terroirs, tout ça, machin. Mais ce qui nous constitue, c'est la langue, et c'est elle qu'on est en train d'abîmer en ce moment. Et c'est en ça qu'il fait défaut. Il fait défaut en ce moment. Ces gens-là, les Maldès-France, les De Gaulle et consorts, font défaut. C'est cette parole-là qui nous manque. Et qu'on a besoin d'entendre. Moi, j'ai besoin d'entendre ça. J'ai pas envie d'entendre des petites phrases assassines. Je trouve ça lamentable, quoi. C'est lamentable parce que ça nous entraîne vers ce qu'il y a de pire chez nous. Et en ça, c'est pour ça aussi que je veux continuer à écrire au théâtre. C'est parce que je pense que c'est pas une tribune, mais un espace de penser absolument infini. Parce que la dernière bataille qui va avoir lieu, c'est pas, bien sûr, sur les territoires respectifs qui se font à droite, à gauche, mais c'est sur l'imaginaire. La guerre de l'imaginaire a déjà commencé. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut qu'on se batte, qu'il faut qu'on arrive à, pas à contrer, mais à créer. Parce qu'à force de contrer, on va reculer. On peut pas contrer. Il faut créer. Il faut pas réagir. On peut pas être dans la réaction. Il faut qu'on soit dans la création. Et c'est vrai que c'est incroyable, un pays comme la France, qui a toujours son ministère de la Culture, quoi qu'on soit la ministre ou le ministre, qu'on a toujours un ministère de la Culture, on a toujours des subventions, on a des théâtres, des scènes nationales, on a des hommes, des femmes, des jeunes générations qui viennent, qui continuent à œuvrer, même si parfois le lignage est rompu, c'est pas grave, il y aura un autre lignage qui va renaître, c'est pas grave. Mais ça continue, la parole continue à se déployer. Le tout, c'est de se dégager des petites causettes à défendre. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épopée, c'est les grandes causes. C'est pas les histoires qui incombent aux sociologues de régler. La sociologie au théâtre, moi, ça m'intéresse pas, ni la psychologie. La politique, oui, le combat, oui, le mythe, oui, les pics, absolument. J'ai besoin de cette parole-là. Même si ça raconte une histoire de famille, il faut que la parole, elle soit épique, elle soit grande, profonde. Qu'elle nous emmène dans des endroits où on se dit « qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire ?» Et ça nous rappelle à nous. Là, j'étais en train de ranger mes affaires en Auvergne, et je suis tombé sur une lettre qu'une jeune femme avait écrite quand je faisais les Atrides, je jouais au reste, et la lettre, elle fait 5 pages. Elle commence par dire « il y a un an, mon frère a tué mon père. » Et pendant 5 pages, elle raconte. Jusqu'au moment de dire « vous avoir vu jouer, vous, pas moi, mais la compagnie, raconter ces histoires, ça m'a aidé à retourner vers mon frère, à peut-être le pardonner, à le comprendre. » Bon, ça, moi, je ne savais pas, mais il y a plein de choses qui se passent à nos insus qui sont magnifiques. Et ça, le théâtre permet ça.
Vous disiez tout à l'heure, Simon Abkarian, que vous vous donniez certaines limites et qu'il y avait une vraie exigence dans les choix des films, les choix des rôles que vous jouez, et des choix des personnages, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qui se passe dans votre cerveau quand vous jouez ? Est-ce que vous jouez vrai ou est-ce que vous jouez faux ? Est-ce que les émotions, vous les feignez ? ou est-ce que vous les éprouvez réellement ?
Non, je feins pas. Après, ça dépend qui a écrit et ce qui est écrit. Mais feindre... Quand j'étais jeune acteur, les gens me disaient au cinéma, je me disais, non mais ne joue pas. Et ça me déstabilisait parce que si je joue pas, je fais quoi ? Et comme c'était mal formulé, comme c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire à un acteur ou à une actrice, ne joue pas, plutôt que de lui dire, je voudrais que ton jeu se fonde en toi, qu'il devienne invisible. Ça oui, mais ça prend du temps. Ça prend presque une vie pour arriver à faire fondre le jeu dans l'humanité que propose l'écriture, conjuguée à la mienne, à ma voix, à ma peau, à mes yeux, à mes larmes, à mon nez, à mes oreilles, à mes morts, à mes histoires. Il faut arriver à se reconnecter soi-même d'une manière très pudique avec le rôle qu'on vous propose d'incarner. Parce que c'est une incarnation. Et dès qu'on voit la petite chose, la petite fabrication d'un acteur ou d'une actrice qui est en train de faire une petite chose pour faire un clin d'œil ou pour capter les rires des uns ou les larmes des autres, ça se voit. Ça se voit. Et c'est pour ça qu'on fait référence à de grandes actrices et à de grands acteurs, comme Catherine Hepburn, comme Deneuve, comme De Niro, comme Rému, comme Gabin. Voilà.
C'est vos modèles que vous me donnez là, par exemple, ou pas ?
Ce sont des confirmations pour moi de ce que moi je cherche. C'est pas forcément des modèles, parce que l'humanité de Gabin, c'est l'humanité de Gabin, son histoire, c'est la sienne. Mais nous sommes frères et amis dans le sens où nous convergeons vers la même chose qui s'appelle l'humain. Représenter un humain. Par l'art de jouer. C'est pas un job, jouer. C'est pas juste un boulot, comme disent nonchalamment certains, même de grands acteurs britanniques qui disent « that's my job ». C'est une manière de dire qui peut réduire aussi la gravité et la complexité de la chose, qui est celle de jouer. Donc, la question que vous me posez, je continue à me la poser encore moi. Qu'est-ce que c'est que de jouer ? Qu'est-ce que c'est que d'être dans l'incarnation ? Un jour, Peter Brook m'a dit « il faut que tu te poses la question, pourquoi tu es acteur ?» Wow, la question,
elle est... vous la poser, je ne suis pas Peter Brook.
Non, mais elle est incroyable, la question, parce que tout d'un coup, on se met à chercher une réponse qui, j'espère, je ne vais pas trouver jusqu'à ma tombe. Mais en tout cas, j'ai trouvé une partie, une ombre de réponse qui serait le grand honneur de représenter mes contemporains et les humains, quoi. C'est ça, l'histoire. C'est rien d'autre. Mais c'est vrai que ça part de l'écriture. Il faut que ce soit écrit. Putain, il faut qu'il y ait une pensée derrière, qu'elle soit politique ou non. Il faut qu'il y ait une pensée profonde. Que la mécanique de l'écriture soit telle qu'elle mette en exergue le sujet qui demande à être traité.
Il y a un film de ce point de vue-là que vous avez beaucoup aimé jouer. C'est Yes de Sally Potter, film de 2004. Je crois qu'il n'est pas sorti en France.
Oui, ils ne sont pas mis d'accord avec les...
Très beau film. Ouais. Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé dans ce film-là ? Est-ce que c'est la précision, puisqu'on parlait de la précision dans l'épisode précédent ?
C'est toujours la précision. C'est comment arriver à viser juste tout en chantant une chanson, en dansant quelque chose ou en faisant la cuisine, mais à viser juste. C'est-à-dire à rester en vie et sans que le fait de viser se voie. Et c'est ça qui est beau avec Sally, c'est qu'elle a écrit un texte qui est magnifique. Elle sait très bien pourquoi elle l'a écrit. Elle l'a écrit juste quand les deux tours sont tombés, elle s'est mise à sa table, elle s'est mise à écrire ça. Et c'est un cadeau, hein. Franchement, c'est des cadeaux. Et ça arrive une fois pour une actrice ou un acteur, de rencontrer des partitions telles que celle-ci, quoi. Mais c'est la précision du geste, c'est la précision de l'émotion. Les didascalies, par exemple. Les didascalies peuvent être très, très meurtrières. Quand vous regardez les grands auteurs de théâtre, il n'y a pas de didascalie. Il n'y a pas dit, tiens, bah Gaston, à ce moment-là, il craque. Parce qu'un jour, j'ai fait un film, et à ce moment-là, il dit, j'ai oublié le nom du personnage, craque. Donc, je vais voir le réalisateur, je lui dis, il craque, quoi. Je lui dis, oui, mais craque, ça veut dire qu'il pleure. Il fait, ouais. Mais ça reste vague, je le sens dans son « ouais ». Et les épaules qui montent comme ça, avec sa petite main qui balaye l'air comme ça, je lui dis « il pleure ». Donc il pleure à chaudes larmes ou les larmes restent coincées dans ses yeux ou s'il y a quelques gouttes qui tombent de ses yeux. Fait, tu peux faire ça ? Je dis « mais c'est mon métier, c'est mon art, c'est mon travail de le faire, de savoir si les larmes vont rester au bord de mes yeux ou pas ».
Et vous préférez qu'on vous dise que les larmes restent au bord des yeux ou que c'est des gros sanglots?
Ouais, ouais. Parce que ça va mettre dans
c'est
un endroit...
C'est pas trop contraignant.
Il faut que ce soit contraignant. Ça doit être contraignant. Et je dois avoir quelque chose surmonté. Sinon, il n'y a pas la chose qui fait que ça va être quelque chose de l'ordre de la grâce qui va se produire. Il faut que ce soit contraignant. Et en même temps, il faut que ça reste vivant. Donc, le problème, c'est que parfois, il y a des gens qui disent « Non, mais moi, il faut que ce soit nature. Si je ne le sens pas, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ça, je ne le sens pas. » Mais l'art, c'est aussi de dire des choses qu'on ne sent pas, de vivre des choses qu'on ne sent pas. Personne n'a envie de jouer Iago et personne n'a envie de jouer un type qui assassine des gens par masse ou je ne sais quoi encore. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est la contrainte qui est intéressante. C'est comme être dans un cadre. Si tu sors du cadre, bah, t'es plus filmé. J'ai eu un acteur un jour qui partait de cours à jardin, de cours à jardin. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Reste. Il me fait, ouais, non, mais il faut que tu me laisses chercher et tout ça. Je dis, cherche, mais sache que la lumière sera là. Pas ni là-bas, ni à cours, ni à jardin. Elle sera là. Donc, cherche, mais sur un mètre ou sur deux mètres. Cherche. Je te dis pas de pas chercher. Mais arrête de brasser l'air, quoi. Et c'est le global qui tue la chose. C'est le prosaïque qui tue l'art de jouer aussi, parfois, qui te fait, bon, ça s'est joué un petit peu par-dessus. C'est de chercher dans l'écriture, qu'on joue un flic ou un gangster ou quoi que ce soit, dans l'écriture, la profonde humanité de la personne, selon ce qui est écrit.
Quel est votre rapport, Simon Abkarian, à l'image? Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la notoriété, mais aussi votre image, et donc le temps qui passe.
Alors la notoriété, on va se calmer parce que je suis pas si notoire
oh,
que
ben
ça.
Oh quand même.
Oui, mais bon, y a des gens qui m'arrêtent de temps en temps dans la rue, qui me disent merci, tout ça, ils ont fait des selfies, tout va bien. Mais je suis pas au point de la notoriété où je passe ma vie dans une limousine ou dans un taxi privé pour aller de tel endroit à tel endroit. Je prends le métro, je prends mon vélo, je marche dans la rue, je vais chez le boucher, je vais faire mes courses, tout va bien. L'image, il faut accepter à un moment donné que la barrière, on la saute plus, on fait le tour. C'est tout. Et il faut accepter que les cheveux ne tiennent plus la couleur noire, mais qu'ils blanchissent. Alors, on peut dire, j'éteins mes cheveux pour un rôle une fois, deux fois, mais à un moment donné, je ne vais pas passer ma vie à me teindre les cheveux, ce que j'ai fait une fois pour des rôles, et j'ai gardé la teinture jusqu'à les racines poussent. Et ma mère derrière qui poussait ma sœur, qui disait, mais va teindre tes cheveux, parce que là, tu vas gagner 10 ans. Bon, écoute, bon, je jouerai plus les jeunes premiers, à moins de tomber sur un projet de fou qui fait que Roméo et Juliette ont 65 ans, 70 ans. Ce serait un concept. Ce serait un concept. Mais j'aime bien vieillir, ça m'emmerde, parce que voilà, j'ai plus les mêmes genoux, j'ai plus la même détente, j'ai plus la même explosivité. Mais il y a autre chose qui s'est passé en moi qui fait que j'accepte le fait de ne plus avoir ces forces-là à ces endroits-là, parce que j'en ai d'autres à d'autres endroits où j'ai mûri autrement. Je suis, je crois, plus calme, plus sage. J'aime toujours la table, j'aime toujours autant festoyer, boire, etc., etc. Mais voilà, je vais me passer de 10 jours peut-être à la fin du repas. Ou pas. Mais moi, mon image, en fait, j'en ai pas. J'ai toujours essayé d'être élégant, être propre sur moi, bien sapé, d'avoir des belles pompes, d'être, voilà, si je me fais renverser, au moins je suis prêt pour le cercueil, je suis bien sapé, quoi.
Merci Simon Abkarian.
Merci à vous.
Merci à demain.
À demain avec plaisir.
Pour le quatrième temps, Homère au 21e siècle.
Waouh.
On parlera de votre écriture.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Simon Abkarian, réalisation Nathalie Salle, prise de son Eric Audra, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.